Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver sur les ondes de Fréquence Mistral. Bienvenue dans l'œil de Sab. Mon invité de ce soir déploie un répertoire qui s'étend de l'opéra baroque aux créations contemporaines. Mon convive a enchanté le public dans des institutions renommées telles que l'opéra de Lyon, de Marseille, de Bordeaux et bien d'autres lieux à travers l'Europe et le monde. Son immense talent lui a valu de nombreuses récompenses lors de prestigieux concours internationaux. Sans plus attendre, accueillons Romain Beauclerc. Bonsoir Romain Beauclerc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Ravi d'être ici.
Vous êtes un artiste dont la voix et le talent rayonnent sur les scènes du monde entier, il faut le dire. Et avant de plonger dans notre conversation, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre actualité. Parce que Romain, vous avez un emploi du temps captivant. Parce que là, dans quelques jours, le vendredi 18 avril, vous aurez l'honneur de vous produire à la Philharmonie de Berlin. Et le samedi 19 avril, à la Klosterkirche de Léna, où vous interpréterez des airs de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach sous la direction de Gert Opelt. C'est bien cela?
Exactement. Oui, ouais, je suis très content de retourner à Berlin. J'y suis allé quelques fois pour des concerts. Et donc j'y vais au mois d'avril pour chanter du Jean-Sébastien Bach. Et j'adore ce compositeur, j'adore chanter cette musique. Et voilà, donc un petit aller-retour à Berlin pour deux concerts. Et j'en suis très content.
Mais quel élément de la Passion selon Saint-Jean de Bach vous touche particulièrement?
Alors, moi je ne suis pas ni baptisé, ni croyant, ni ce qu'on veut, mais c'est de la musique qui, au-delà du fait qu'on raconte l'histoire de la mort de Jésus-Christ, qui, moi, je n'ai pas été là-dedans, mais qui me touche énormément, la musique elle est dingue, et quand on l'a fait en Allemagne, ça a encore plus de valeur parce qu'on chante en allemand, les gens comprennent ce qui se passe et eux là-bas ils ont énormément de culture religieuse, donc quand on raconte ça pendant la semaine sainte en Allemagne, il y a une vraie communion avec les gens, avec le public, et même si on n'est pas forcément de confession chrétienne ou protestante ou quoi que ce soit, c'est un moment fort de l'année et cette musique elle est dingue et moi elle me fait voyager à chaque fois, même si, comme je vous disais, je ne suis pas de confession quoi que ce soit, mais encore moins catholique.
Mais avez-vous des rituels ou des préparations spécifiques avant une performance?
Oui, bah bien sûr. Alors, moi je suis chanteur, donc je joue avec mon instrument qui est ma voix, qui est mon corps en fait. Donc, on essaie d'éviter d'avoir une vie trop débridée, on essaie de bien dormir, on essaie de bien manger. On essaie de pas trop boire la veille d'un concert, ou voilà, on fait un peu attention à ce genre de choses, en tout cas quand on a des concerts, des représentations d'opéra, des choses importantes. Et voilà, après on gère chacun le stress un peu différemment. Moi ça va, je gère plutôt bien ça, je suis pas trop stressé avant les concerts, mais il y a toujours l'adrénaline par contre, qui fait qu'on est toujours hyper focus sur le moment. On sait que c'est des moments qui sont importants, quoi. On a la chance, moi j'ai la chance de faire ce métier, enfin, je suis très très heureux et très chanceux de faire ce métier. Donc voilà, il y a toujours ce petit moment d'adrénaline, un petit peu de stress, mais juste ce qu'il faut pour sentir qu'on est dans un moment un peu exceptionnel et qu'on va faire un beau concert, quoi.
Mais comment se déroule votre collaboration avec les chefs d'orchestre?
Alors, soit ils m'appellent directement, ou soit ils appellent mon agent artistique qui gère un petit peu les différents contrats. Et au bout d'un moment, à force de travailler avec un tel ou un tel chef, on commence à devenir proche, ami, et voilà. Donc, il y a des ensembles avec lesquels, et des chefs avec lesquels je travaille énormément, tous les ans, beaucoup de fois, et d'autres personnes avec qui je travaille une fois dans ma vie, et puis ça ne se renouvellera pas pour plein de raisons. Donc, voilà, des fois, j'ai tout le temps, j'ai grand plaisir à rencontrer des nouvelles personnes. Et puis après, au contraire, aller travailler avec des chefs avec qui je travaille depuis 10, 15 ans, où du coup, la relation est très différente. Ouais.
C'est-à-dire alors ?
C'est-à-dire que ça devient des amis, quoi. On va manger au resto ensemble, ou on s'invite les uns chez les autres, on se donne des nouvelles de la famille, et puis après, hop, on fait un concert. Et il y a ce côté, vraiment, on fait un métier qui est très humain, quoi. C'est-à-dire que les collègues, les chefs, l'orchestre, les chanteurs, les techniciens sur le, enfin on est tous humains, donc avant tout on partage des moments, et donc du coup on se donne des nouvelles, on partage des moments ensemble, on parle d'autre chose que de boulot, quoi. Et par contre, au moment de la répétition ou du concert, là on est dans le boulot, donc c'est la musique, faire notre métier le mieux possible et faire en sorte que le public soit en communion avec nous. Et mais voilà, donc j'aime beaucoup cette dimension humaine aussi de ce métier.
Alors, nous rappelons que vous serez également à la Kloster Kitsch de l'ENA, donc les personnes qui ne savent pas ce que c'est, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une église qui fait partie d'un ancien monastère ?
Oui, qui est juste à côté de Berlin. Et donc voilà, on fera le même programme, c'est la Passion selon Saint Jean aussi, qu'on va donner à Berlin, et puis le lendemain, voilà, juste à côté.
Mais justement, dans deux lieux différents.
Dans deux lieux différents, ouais.
Est-ce que ressentez-vous une différence de dynamique ou d'atmosphère en vous produisant dans des lieux variés comme ceci ?
Ouais. Alors, l'acoustique, souvent, elle est différente. Dans des églises, souvent, ça résonne beaucoup, et on est dans cette vieille pierre. Alors, après, ça dépend des églises, hein. Mais des fois, des églises qui sont là depuis 700, 800 ans, donc c'est toujours hyper impressionnant de se dire que le son qu'on fait, ça fait des centaines et des centaines d'années que l'église, ou quel que soit l'endroit, reçoit des musiques différentes. Enfin, moi, je suis toujours très touché par ça. Et en revanche, à la Philharmonie de Berlin, là, qui sera dans la salle de musique de chambre de la Philharmonie de Berlin, ça, c'est dingue, parce que c'est une salle de concert qui est inouïe, quoi, qui est exceptionnelle, qui est connue dans le monde entier, où il y a la scène qui est au milieu de la salle et tout le public est autour. Et donc, ça fait que quand on est sur scène, il y a des gens partout, quoi. Des gens devant nous, derrière nous, à gauche, à droite. Et l'acoustique, elle est hallucinante. Alors, c'est moins réverbérant, parce que dans une église, ça résonne beaucoup. Le son, il tourne énormément. Donc, c'est beau aussi, hein. Mais dans des salles de concert comme ça, surtout de ce niveau-là, voilà, c'est pas le même endroit. C'est pas un endroit sacré. C'est un endroit qui est fait pour les concerts. Et en même temps, là, elle est tellement belle. Ça sonne super bien. Donc, deux salles, deux ambiances, quoi. Mais toujours aussi bien.
Une autre ambiance aussi, après, parce que le samedi 10 mai, vous vous rendrez en Espagne, oui, pour toutes les nuits. C'est un programme de 20 mélodies, c'est bien ça ?
Ouais, alors ça, c'est chouette, parce que c'est avec Alors là, pour le coup, c'est un vrai copain, ami, collègue. On a créé un duo. Lui joue du luth. Alors, le luth, c'est un instrument de la Renaissance, qui est un très proche cousin du oud arabe, avec juste, on a rajouté des petites frettes, mais en soi c'est un instrument très très similaire. Et donc on fait de la musique pour une voix et un luth, quoi. Et on fait de la musique de la Renaissance, là, en l'occurrence. Et on a fait déjà deux disques, on va être sur le travail d'un troisième disque qui va arriver. Et ce qu'on va donner donc à Zamora en Espagne, c'est un programme autour des nuits. De la nuit, il y a plein de poèmes qui ont été écrits sur la nuit à la Renaissance. La nuit qui est le moment où on a peur, la nuit qui est le moment où on se retrouve tout seul. Au contraire, la nuit qui est le moment où on retrouve sa bien-aimée, ou voilà, la nuit qui représente énormément de choses dans l'imaginaire à la Renaissance. Et du coup, les poèmes ont été mis en musique, il y a plein de compositeurs qui ont écrit plein de très très belles musiques là-dessus. Donc on a fait tout un disque autour de la nuit, et donc le programme s'appelle « Toutes les nuits ». Et on donne ça en Espagne, à Zamora. Et ça, pareil, ça va être... je suis très content d'aller là-bas pour donner ce programme que j'aime beaucoup, avec ce collègue luthiste qui s'appelle Bor Zulian, qui est slovène. Donc, on se retrouve à faire de la musique italienne et espagnole et française en Espagne, avec un Français et un Slovène. C'est international.
Et quelques jours après, ouais, là, vous allez faire autre chose complètement différent. Par exemple, le mardi 13 mai.
Ouais.
Que se passe-t-il?
Ah bah je sais
à l'opéra,
même pas.
À l'opéra de Clermont-Ferrand.
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah si, c'est Galatée de Handel. Alors là, dans le genre international, c'est pas mal aussi parce que Masque est un ensemble qui a été fondé par Olivier Fortin, qui est québécois, qui est canadien. Et donc il y a toute une équipe de personnes qui viennent du Québec, d'autres qui sont en France. Et on fait de la musique anglaise. Et là, on fait Assis et Galatée.
Vous pouvez justement nous raconter un tout petit peu le résumé de cette œuvre ou pas ?
Le mieux, ce sera de pouvoir venir au concert. Pour,
d'accord. Mais cette œuvre, on peut dire quand même, elle nous entraîne dans une intrigue captivante.
Oui, oui.
Où s'entrelacent des thèmes d'amour fugace, de beauté, de jalousie. Le tout porté par une musique à la fois joyeuse et empreinte de mélancolie.
Oui, c'est ça. Et ce que vous venez de décrire, c'est vraiment toute la musique baroque.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois dans les musiques... Donc, musique baroque, l'opéra baroque... C'est tout début du XVIIe. On dit le premier opéra, c'est Orfeo de Monteverdi au tout début, vers 1607. Mais en fait, allez, disons, tout le XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, pendant 150 ans, on écrit des opéras. Et après, on en fait bien sûr toujours après. Hein. Mais l'opéra baroque, très souvent, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire des histoires d'amour, il y a des divinités, il y a des chansons, des morceaux tristes, des morceaux gays. Et souvent, ça finit bien, mais pas que. Par exemple, dans Didon et Énée de Purcell, à la fin, elle se tue. Bon, bah, c'est comme ça. Et cette musique baroque, c'est une musique qui a été créée pour faire des affects, c'est-à-dire les sentiments humains qu'on va essayer de représenter à travers la musique, à travers le chant, de manière très extrême. Donc la tristesse, ça va être hyper triste. La joie, et ça va être énorme. Tout va être poussé vraiment à l'extrême. Et c'est un peu comme ça qu'on peut décrire la musique baroque. C'est comment décrire à l'extrême les sentiments humains, comme voilà, la tristesse, la joie, l'amour, la haine, la guerre ou la paix, tout ça. Donc c'est des sujets qui sont très contemporains, quoi. On peut vraiment s'identifier à ce qui se passe. Et ça, c'était il y a 300 ans, mais c'est aujourd'hui, c'est pareil.
Mais apparemment, votre rôle... Polyphémus, c'est bien cela. Oui, apparemment, il est très, très, très attendu. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage et comment envisagez-vous de l'interpréter ?
Oh là là, ça, c'est une très, très bonne question. Qu'est-ce qui me plaît dans ce personnage ? La musique, elle est très, très belle, déjà. C'est-à-dire que Handel, au moment de composer cette pièce, il écrit des airs très spécifiques pour chacun des personnages. Donc quand il a envie de simuler, de proposer de la haine ou de la joie, il l'écrit très spécifiquement, et Handel, pour ça, il est très fort. C'est-à-dire que quand on écoute la musique, on n'a même pas besoin de comprendre l'anglais pour comprendre ce qui se passe, parce que la musique en elle-même, elle parle. Il y a la rage et la colère qui est tout de suite là dans la musique, et on comprend, on n'est pas forcément obligé d'entendre les mots. Et ça, c'est notre job de chanteur, de musicien, quand on interprète un rôle. C'est que comme, contrairement au théâtre, quand on va au théâtre, il y a des personnages qui parlent français et qui racontent une histoire. Bon, très bien. Nous... parfois, on fait de l'opéra en français, mais parfois et souvent, c'est de l'opéra en italien ou en anglais ou en allemand. Alors là, tout le truc, c'est de se dire, OK, je suis dans une salle, là, en l'occurrence à Clermont-Ferrand, je suis en France. Il y a des gens devant moi qui parlent français, peut-être certains un peu anglais. Certains, ils connaissent l'opéra, mais d'autres, non. Et comment je vais arriver à faire comprendre ce que je veux dire à des personnes qui ne comprennent pas les mots, mais simplement avec la musique, avec la manière de l'entonner, avec la manière de chanter fort, piano, vite, pas vite. Et c'est ça que je trouve fascinant dans notre métier de chanteur, surtout quand on fait des langues un peu, des langues étrangères, c'est de se dire, en face, il ne va pas forcément comprendre le mot. Donc comment je vais pouvoir lui faire comprendre ce que je raconte sans qu'il parle un mot d'anglais ? Et voilà, donc dans ma préparation des rôles, en général, c'est ça qui se passe, c'est d'essayer d'aller au cœur du rôle, de dire, OK, je veux raconter ça, et maintenant, si les gens ne comprennent pas le mot en face, comment je leur fais comprendre ce qui se passe sans qu'ils comprennent la langue ? Et là, en l'occurrence, avec l'anglais, voilà, ça se fait, mais avec l'italien, j'ai interprété le rôle d'Orfeo dans Orfeo de Monteverdi à l'Opéra de Marseille il y a 3 semaines, et pareil, c'est de l'italien, donc voilà, essayer de comprendre... de faire comprendre ce qui se passe. J'ai perdu Eurydice qui est partie aux enfers, je vais la chercher, et voilà, avec de l'italien, et pourtant il y a 1800 personnes en face qui sont français, mais ils vont comprendre ce qui se passe, parce que, enfin, en tout cas, je l'espère, à travers la manière de le faire, quoi.
Et comment travaillez-vous sur votre technique vocale?
Alors ça, c'est un long travail, oh là là. c'est un très très long travail qui dure toute une vie, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais c'est ça qui est beau. Et en même temps, on n'arrête pas de se poser des questions, on n'arrête pas de... Ça commence par des cours de chant. Moi, j'ai chanté dans une chorale, quoi, parce que j'ai une copine qui me dit « Viens, on va chanter à la chorale. » Je dis « Bon, on va chanter à la chorale. » Et puis finalement, là, c'est intéressant de chanter à la chorale, mais des fois, on sort de la répète, on est fatigué, on n'a pas compris trop comment ça marchait. Et puis après, ça commence à nous plaire, donc on m'a demandé « Tiens, tu veux pas faire tel solo ? Tiens, tu veux pas chanter ce truc-là ?» Tout ça. Donc j'ai commencé à prendre des cours de technique vocale pour savoir un peu comment on fait pour chanter. Et dans mon métier, moi, de chanteur classique, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, chanteur lyrique, chanteur d'opéra, chanteur... l'idée, c'est que on chante sans micro. Donc, arriver à se faire entendre dans une salle comme l'Opéra de Marseille ou Clermont-Ferrand, où vous voulez, sans micro. Donc, faut chanter assez fort. Et en même temps qu'on comprenne ce qu'on dit, parce qu'on porte un texte. Et ça, c'est, bah, ça se travaille. C'est-à-dire que hurler pendant 6 heures, entre guillemets, sans se fatiguer, et puis tous les jours de la semaine, effectivement, c'est ce qu'on appelle la technique vocale, pour apprendre donc à bien placer la voix, apprendre à chanter pendant des heures et des heures sans se fatiguer, et puis après apprendre voilà, les styles de musique, tout ça. Mais vraiment, ce qui nous caractérise, nous, chanteurs classiques, c'est que alors parfois, il y a des micros pour telle ou telle raison, mais d'apprendre à chanter fort, pour qu'on appelle ça passer l'orchestre. C'est-à-dire que des fois, on se retrouve avec un chanteur et il peut y avoir 20, 30, 40, 80 musiciens dans une fosse d'orchestre, quoi. Donc on se dit, mais si je suis tout seul et il y a un orchestre de 80 violons, violoncelles et tout ça, ils vont jamais m'entendre. Et si, parce qu'on a travaillé cet instrument pour que ça projette le mieux possible, sans se fatiguer, avec des notes aiguës, des notes graves. Et ça, c'est un travail, des cours de chant pendant des années.
Et est-ce que c'est possible de nous faire une petite démonstration?
Alors, ben, je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie de faire que les micros, je vais m'éloigner un peu, mais disons que si on chantait dans un micro, qu'est-ce que je pourrais chanter c'est bon. Voilà, si j'ai une idée. Chanson des Beatles. Dans un duo que j'ai, avec cet ami luthiste là qui s'appelle Dulce Sexuvié, on chante aussi de la musique plus intimiste, donc parfois de la musique actuelle ou parfois autre chose, des musiques de la Renaissance. Et donc dans ces cas-là, ça sert à rien de chanter trop fort, parce que je chante juste avec une personne qui joue du luth. Et si je chante la musique « Toutes les nuits », voilà, ça n'a rien de chanter plus fort, c'est pas l'idée, quoi. On est là, il y a peut-être une cinquantaine de personnes dans la salle autour de nous, ça n'a rien de chanter plus fort. En revanche, si je me retrouve à l'opéra, là, il faut projeter la voix, il y a un orchestre, et là, la voix, plutôt que de faire un sorte de « Ah !» Et ben ça va se projeter plutôt en on va accentuer le vibrato, on va rajouter ce qu'on appelle la rondeur. Je sais pas du tout si là ça c'est des fréquences qu'on fait un petit peu cracher les micros, mais en tout cas l'idée effectivement c'est de placer la voix différemment pour qu'on puisse chanter plus fort et plus aigu et plus grave et tout ça. Et donc l'idée c'est d'adapter, et si demain j'étais amené à chanter avec un micro, eh ben, je chanterais forcément très 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 différemment que quand on chante à l'opéra sans micro, ou quand je chante juste avec un piano, ou quand je chante juste avec un luth, ou parfois a cappella avec quatre chanteurs. Voilà, donc c'est mon métier aussi, c'est notre métier de chanteur, de s'adapter avec tout ça et chanter différemment en fonction de ce qu'on a à chanter, quoi.
Que ressentez-vous en montant sur scène?
Beaucoup de plaisir. Surtout, c'était émouvant après le confinement, là, après le Covid, là, où on était tous chez nous à se lamenter sur notre sort et à plus pouvoir voir personne, pas aller au musée, au concert, au cinéma ou dans la rue. Et quand sont revenus la possibilité de faire des concerts, c'était un plaisir de dingue parce qu'on se retrouvait à nouveau de pouvoir faire de la musique avec des gens et pour des gens. Et ça, c'était très beau. Et sur scène, ça dépend pour qui on chante, mais globalement, il y a toujours de l'adrénaline, toujours ce petit moment qui est magique, quoi. Avant de rentrer sur scène, le petit stress, la petite préparation de dernière minute, c'est dire toi, c'est le C'est ce qu'on se dit souvent avant de rentrer sur scène, toi, 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 c'est le petit pour dire allez, bonne chance. On se dit bonne chance à tous, on se dit merde, ou on se dit allez, ça va marcher. Et on a chacun nos petits rituels, et hop, après ça y est, on monte trois marches et boum, on se retrouve d'un coup devant la scène, sur la scène avec plus ou moins de personnes dans le public, des fois beaucoup, des fois moins. Et voilà, de l'excitation, envie surtout. Moi, ce qui m'a toujours poussé à faire ça, c'est l'envie de partager de la musique, quoi. Le feu des projecteurs, le fait d'être applaudi, tout ce qu'on veut, moi, ça a toujours été une... c'est secondaire, entre guillemets. Je suis content, hein. Ce serait n'importe quoi de vous dire que c'est hyper désagréable que les gens applaudissent et puis que... Non, bien sûr, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais moi, mon moteur, c'est surtout de me retrouver à... On a fait de la musique, on a travaillé, on a un bon concert qui est prêt, là. Et ben, on va vous le montrer, on espère que vous allez passer un bon moment avec nous, et c'est parti, quoi.
Y a-t-il une performance où vous avez ressenti une connexion particulière avec le public ?
Oui. Alors, des fois, surtout à l'opéra, par exemple, ce qui est compliqué, c'est qu'on est loin du public, donc on ne les voit pas. Les lumières font qu'on les a en pleine tronche, donc ouais, on ne voit même pas. Des fois, on ne voit vraiment pas. Hein. Il peut y avoir... des fois, à la générale, il y a juste une dizaine de personnes dans le public parce que ce n'est pas public. Et le lendemain, la première, il y a 1500 personnes, mais nous, de l'intérieur, on ne voit pas du tout la différence. Donc ça, c'est compliqué de pouvoir partager avec eux. Mais par contre, deux, trois souvenirs. Mais par exemple, quand je fais de la musique avec le duo dont je vous parlais tout à l'heure, là, avec lequel on va à Samora là, au mois de mai, on essaie au maximum d'être en communion avec le public, non pas de proposer genre juste un concert où les gens arrivent, applaudissent et s'en vont, mais qu'on ait passé un moment tous ensemble. Donc on essaie de mettre les gens un peu autour de nous, on se met sur une table, on met des petites bougies, des petits machins, ambiance, quoi. Et parfois, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe, quoi. On essaie de chercher cette magie, ce moment où tout le monde a partagé ce moment ensemble, parce que la musique, elle a été touchante à ce moment-là, parce qu'il s'est passé quelque chose un peu exceptionnel. Et voilà, avec Bor, donc ce luthiste qu'on a, ce Dulces Exuviae, il y a souvent des moments un peu magiques comme ça. Ou une autre, c'était, comme je vous disais, la Passion selon Saint Jean, là. Donc on raconte la mort du Christ, et à la fin il est mort, et plein de musique très triste, et même, mais pas si triste que ça, parce qu'en fait à la fin, pourquoi il est mort, c'est pour ressusciter, donc c'est pour plein de choses bonnes. Bon, très bien. Nous en France, on a une habitude, super, à la fin, dernière note, on applaudit, tout le monde salue, merci, au revoir. Mais j'ai un souvenir, un concert en Suisse de cette pièce-là, où, je sais pas, donc il y a la dernière note, et je crois que dans l'église, il y a dû y avoir peut-être 2 minutes de silence total avant les premiers applaudissements. Pourquoi ? C'est parce que, comme les gens ils comprennent ce qu'on vient de dire, il y a un gars qui est arrivé en disant je suis le sauveur, je suis Jésus, il va se passer plein de trucs, mais à la fin, je partirai. Et boum, à la fin, il meurt. Et ça ne s'applaudit pas. On ne va pas applaudir la mort de quelqu'un qui est notre sauveur, quoi. Et une nouvelle fois, moi, je ne suis pas croyant. Je n'ai pas été élevé dans la foi chrétienne et tout ça, mais en tout cas, ce discours me touche de me dire nous, on y croit. Et on va pas applaudir ça. En tout cas, à la fin, on applaudit bien sûr les musiciens et tout ça, mais il y a eu ces moments de 2 minutes où c'était juste du recueillement, quoi. Le concert était... Et c'est des longs concerts, hein. Souvent la Passion de Jean-Sébastien Bach, il y en a deux, il y a Saint-Jean, Saint-Mathieu. Saint-Jean a fait au moins 1h30, je crois. Saint-Mathieu a fait 2h30. Donc c'est long, c'est un vraiment long concert, on est assis, on attend, il y a plein de belles musiques, mais c'est long. Et à la fin, au moment où il y a la dernière note, ce grand silence où il y a, je sais pas, peut-être 600-700 personnes dans l'église et puis plein de gens sur scène, des artistes et tout. Et là, tout le monde en communion, waouh, on vient de vivre un moment un peu fou, grand silence, et après on applaudit. Ouais, ça c'est le genre de moment où on sent qu'on a partagé vraiment quelque chose, quoi.
Et qu'est-ce qui vous inspire le plus dans la musique classique ?
Ah, c'est une bonne question. Alors, en fait, quand on dit musique classique, c'est compliqué à définir parce qu'en fait, c'est plein de siècles de musique. Souvent, on parle de musique savante, c'est-à-dire c'est une musique qui a été écrite, quoi, musique qu'on peut écrire. Par exemple, la polyphonie corse, c'est une musique qu'on n'écrit pas, c'est une musique qui se transmet de génération en génération, comme plein de musiques traditionnelles en Inde, comme plein de musiques en Asie, où on veut, quoi. Donc nous, on fait plutôt des musiques qu'on appelle classiques, donc des musiques qu'on dit savantes. Et ça va de l'époque médiévale, je sais pas, de l'an 1000 jusqu'à 1000 ans de musique, entre guillemets, classique, quoi. Et donc, moi, ce qui me touche dans ces musiques, c'est très variant, ça varie beaucoup. Dans la musique de la Renaissance, bah, parfois c'est de la musique a cappella, que des voix, et ça je trouve ça hyper émouvant, le fait qu'il y ait juste 4, 5, 6 personnes devant nous qui chantent, et ça remplit toute une salle, et on est touché, un peu comme dans la musique corse d'ailleurs, les polyphonies corses, j'adore, et il y a ce système où c'est juste les voix, quoi, et je trouve que c'est le vecteur le plus, parfois le plus touchant. Musique baroque, l'opéra, quoi, la naissance de l'opéra. D'un coup, on s'est dit, on va raconter une histoire, et on va interpréter des personnages, et on va le faire avec de la belle musique, et vous allez voir à la fin, vous allez pleurer parce que telle personne ou telle personne, elle est morte. Comme un film, quoi, un bon film, on pleure devant un bon film, on peut pleurer devant un bon opéra. Et ça, c'est assez beau. Moi, je suis spécialisé dans les musiques qu'on dit anciennes, c'est-à-dire les musiques baroques, renaissance. Toute la sonorité des viols de gamme, des clavecins, des luths, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis après, même plus tard, hein, l'opéra 19e, Puccini, tout ça, j'adore. Pareil, l'opéra, c'est... Donc c'est un peu compliqué de savoir ce qui me touche spécifiquement dans la musique classique, ça dépend un peu des périodes, ça dépend ce que j'écoute, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une musique qui me touche et que je suis sûr, peut toucher plein de gens.
En tant qu'artiste expérimenté, vous avez peut-être sans doute des réflexions à partager. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui ont des a priori sur la musique classique ?
Ah, c'est une bonne question, ouais. Alors la musique classique, elle est déjà ouverte à tous. Vous savez, oui, des fois on entend, ouais, je connais pas, donc je peux pas aller au concert. Est-ce qu'il faut bien s'habiller pour aller à l'opéra ? Est-ce que tout... Non, ça c'est fini ça. On s'habille en palais, je vais à l'opéra en basket, jean ou ce que tu veux. Enfin, il y a aucun souci. C'est une musique qui n'attend qu'à être partagée, n'attend qu'à être écoutée par tout le monde. Et ça, je pense que la responsabilité, elle est aussi pour les artistes. Nous, on doit faire en sorte de pas proposer des concerts chiants, pénibles, au bout d'une heure et demie on écoutait toujours la même chose et on s'est un peu ennuyé. Non, il faut qu'on ait des choses qui tendent la main vers les gens qui connaissent pas, quoi. Il faut qu'on explique des choses, il faut qu'on comprenne, voilà, vous allez écouter ça, et si vous voulez un peu une clé d'écoute, vous allez vous rendre compte que si, que ça, et que les gens se disent, ah ouais, je vais écouter différemment la musique, quoi. Et je pense que c'est important aussi pour les festivals et les salles qu'elles se remettent aussi un peu en cause et qu'elles essaient de toucher au maximum plus de public, quoi. Parce que, par exemple, ils le font pour les politiques tarifaires, c'est-à-dire que les opéras, maintenant, on peut aller à l'opéra pour 10 euros ou quoi, 15 euros, ou même 5 euros, même peut-être gratuit, enfin, ça, il y en a de plus en plus. Donc, c'est plus sur... parce qu'il y a même des gens, si on leur dit...
On est moins bien placés, quand même.
Oui, voilà. Bien sûr. oui, c'est sûr. Mais quand je vois, c'est hors de prix, aller au Stade de France voir un gros groupe de rap ou aller au Vélodrome aller écouter de Jul, enfin je crois que c'est très cher aussi, hein.
C'est pas faux.
Ouais, donc en fait je pense que c'est pas une histoire de prix, c'est plus une histoire que si demain je vais voir un gars dans la rue, je dis tiens, une place gratuite pour tel opéra, peut-être il y a une personne sur lui, elle me dit bah non, je connais pas, j'ai pas envie d'y aller, c'est un peu intimidant, quoi. Donc nous les artistes, on va faire en sorte de proposer quelque chose de nouveau, d'actuel, qui parle à tout le monde. Et je crois que les maisons de concerts, quoi, les salles de concert, les opéras, les festivals et tout, on doit faire en sorte aussi de proposer des programmations ouvertes qui puissent toucher un maximum de gens pour que effectivement, n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quelle origine, n'importe quelle langue qu'on parle, d'où on vienne, on puisse aller écouter une heure et demie de musique et à la fin on se dit je connaissais pas, j'ai passé un bon moment et c'était cool, je rentre chez moi, j'ai appris un truc, comme quand on va voir un bon film enfin c'est important pour moi de pouvoir partager ça.
Alors là, actuellement, là, maintenant, j'ai envie de partager aussi quelque chose parce que je sais que vous avez réalisé une reprise de Blackbird des Beatles,
ouais. Oui.
Une chanson à la fois emblématique et touchante. Qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir ce titre ?
C'était dans l'album de la nuit, justement, avec le collègue luthiste, là. Et on fait plein de trucs sur la nuit, alors dans des pièces de la Renaissance, quoi. Et puis on s'est dit, tiens, ce serait marrant. Et puis on répète un jour... Le collègue là qui joue le luth commence à jouer Blackbird aux Beatles, des Beatles, il me dit tiens, ça te dit, vas-y, chante ça. Et puis ça marche tout de suite, comme quoi c'est une musique qui peut marcher avec n'importe quel instrument et n'importe quelle époque et tout ça. Et on s'est dit, parce que ça parle de l'oiseau noir au cœur de la nuit et tout. Et donc on s'est dit que c'était une bonne idée de le mettre dans ce programme autour de la nuit.
Et bien sans plus attendre, cher auditeur, je vous propose d'écouter cette magnifique reprise de Blackbird par Romain Beauclerc.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. blackbird singing in the dead of night. Take this second eyes and learn to sing all your life. You were only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to
Waouh, magnifique! Bravo! J'adore. Je suis fan, je crois.
C'est gentil.
Au cours de votre parcours, quel a été le défi le plus marquant que vous ayez rencontré?
Ouh là là. Les concours, c'est toujours compliqué, ça. Concours d'entrée. Ou les auditionner pour aller rentrer dans un conservatoire ou ce genre de truc. Parce que quand on va à un concert. Il y a des gens, ils sont allés au concert, ils sont payés leur place, ils sont contents d'être là. Quand on chante devant un jury de 5 personnes derrière une table qui note des trucs, ça c'est toujours compliqué. Donc ça c'est un des gros défis, c'est devant un jury de concours et tout ça, c'est dur.
Dans un instant, vous allez nous raconter votre histoire et comment on réalise ses rêves. Mais avant cela, je vous propose une courte pause musicale avec le titre Ave Maria. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur ce titre?
Eh ben, c'est une belle musique de Josquin des Prés, donc un compositeur entre le 15e et le 16e siècle, et qu'il sera interprété là par Borzulian et moi-même dans le duo Dulce Exuvié. Donc une version avec voix et luth, plus intimiste que la version habituelle, entre guillemets, qui serait avec que des voix.
Allez, c'est parti, on écoute.
Sancta Maria,
Comment décririez-vous l'émotion que vous ressentez en chantant ?
En chantant, ça dépend ce que je chante. Quand je chante un truc vraiment triste, il faut pas que je pense trop à le truc triste, sinon je me laisse embarquer. Il faut pas, parce qu'après tu peux plus chanter. Non, ça dépend vraiment ce que je chante. Et là, en l'occurrence, dans ce qu'on vient de chanter juste avant, bah, avec quelque chose de très, ouais, très intimiste, très... essayer d'être en communion avec ce qu'on raconte et la musique et essayer de transmettre ça au public, quoi.
Romain Beauclerc, en trois mots, ça donnerait quoi ?
Oh, en trois mots. Joie, passion, têtu.
Ah oui, vous êtes têtu ?
Ouais, je crois un peu, ouais.
Selon vous, est-ce que les souvenirs influencent nos choix de vie ?
Ouais, inconsciemment, je pense que oui. Ouais, des fois, on se dit, pourquoi j'ai fait ça ? En fait, c'était déjà écrit. Donc oui, je suis sûr que ce qui s'est passé il y a des années, on s'en souvient, mais parfois on ne se souvient pas, mais en tout cas ça fait que ça influe beaucoup sur ce qu'on fait. Ouais.
Fermez les yeux un instant, s'il vous plaît, Romain. Fermez bien les yeux, je vous regarde, attention.
Ça ferme, ça ferme.
Si vous pouviez remonter le temps et donner un petit conseil à l'enfant que vous étiez, lequel serait-il ?
D'accepter d'être ce qu'on est, quoi. De ne pas vouloir tricher. Si on a envie de faire un truc et qu'on se sent bien dedans, bah faut pas forcément être influencé par ce que les autres vont dire, mais on continue dans ce chemin là et si c'est le bon chemin, si on est au bon endroit, ça va être bien.
Pour mieux comprendre, essayons d'imaginer le petit Romain. Où avez-vous grandi?
J'ai grandi à Blois, c'est une ville entre Orléans et Tours en région centre.
Quel genre d'enfant étiez-vous?
Oh, je pense joyeux, j'allais au foot, je jouais avec les copains, je faisais déjà de la musique étant gamin.
Si l'on vous demandait de créer une chanson sur votre enfance, quel en serait le thème principal ?
La joie.
Pouvez-vous nous parler de votre enfance et des souvenirs musicaux qui vous ont marqué ?
J'adorais la musique, j'en ai toujours fait. Mon enfance... j'ai commencé tout gamin à faire de la flûte à l'époque, et puis après j'ai fait de la guitare et le partage, toujours jouer avec les gens, c'est ça qui m'a toujours plu. Jouer tout seul, c'est pas trop mon truc, mais par contre partager de la musique avec des gens et comme c'est comme une discussion sans employer des mots, quoi, et ça me plaît.
Mais y avait-il des artistes ou des membres de votre famille qui vous ont inspiré à vous intéresser à la musique ?
Même pas. Enfin, mes parents écoutent beaucoup de musique. Il y a toujours de la musique à la maison, mais le parcours musical, c'est moi qui ai dû... ils m'ont emmené, ils m'ont inscrit, ils m'ont dit « Ah, tu veux faire de la musique ?» Donc j'ai fait de la musique. Mais quand j'ai grandi et que je me suis dit « Tiens, j'en ferais bien mon métier », c'est plutôt moi qui suis allé dans cette direction-là.
Mais avant de parler de tout ça... Quel était l'environnement familial dans lequel vous avez grandi ?
Mes parents étaient... J'ai une grande sœur, j'ai des parents, ma mère allait à l'institut et mon père, il travaillait à la poste. Donc, du coup, j'étais avec des parents qui étaient là, quoi, globalement. Et le week-end, ils pouvaient m'emmener au foot et le mercredi, ils pouvaient m'emmener à la musique. Donc, juste ça, je crois que c'est une chance incroyable d'avoir des parents qui sont là et qui sont à l'écoute de ce que j'avais envie, quoi, quand j'étais gamin. Parce qu'il y a des tas d'enfants qui n'ont pas cette chance-là. Donc cet environnement-là, alors après avec le quotidien, hein, c'est pas toujours tout rose tout le temps et c'est normal. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents voilà, qui m'ont dit ah, tu veux faire de la musique, bah, y a un conservatoire pas loin, on va t'inscrire. Ah, tu veux faire du foot, bah, y a un club pas loin avec tes copains jouer au foot. Voilà, j'ai eu cette chance-là.
Mais quel est le mot qui vous vient à l'esprit pour décrire votre famille ?
Ouverte.
Ouverte.
Ouais.
Et quels sont les principes qui ont nourri votre éducation et qui ont guidé votre vie ?
Ah, c'est une séance de psy. Ouais, ouverture et puis bah pas déranger les autres quand ils, enfin voilà, faire en sorte de je pense la liberté commence là où s'arrête celle du voisin. Non, mais dans le sens où faire en sorte que qu'on respecte les gens autour de nous, qu'on respecte les personnes, voilà, personnes autour de nous. Donc si on a envie de faire du bruit ou de la musique, ou bah très bien, si on dérange personne, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, toujours être au sein de d'une société, quoi. On regarde ce qui est autour et on fait en sorte que ce qu'on a envie de faire ou là où on a envie d'aller, ça dérange pas le voisin.
Vous êtes encore proche de l'enfant que vous avez été ?
Oui, je crois. Et je pense que ça, c'est dur parce qu'on est dans une société qui veut qu'on soit adulte, quoi, qu'on ait des responsabilités. Et moi, je suis le premier à me réjouir comme un gamin, à dire « Oh, c'est génial ça, et c'est trop bien, et c'est trop bien !» Et j'ai l'impression d'être un gamin quand je dis ça, mais je pense que c'est important de garder cette étoile dans l'œil, voilà, ce regard d'enfant sur les choses. Il y a des choses qu'on n'aime pas et des choses qu'on aime, et je pense qu'il faut... On hésite trop à dire qu'on aime les choses, qu'on aime les gens, et on s'extasie plus quand on est adulte, quoi. Parce que je crois que ça fait... Je sais pas pourquoi on arrête de faire ça. Mais je crois que j'aime bien garder cette dimension de moi, d'enfant.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris le plus à l'école en dehors des matières courantes ?
Oh, peut-être apprendre à apprendre, je crois. C'est-à-dire, ouais, les cours de maths ou de physique ou de français, en fait, on apprend des choses, mais c'est bien. Mais je pense que apprendre à apprendre, c'est ça le principal. Apprendre à être curieux et apprendre à se dire, je trouve ça chouette. Comment il fait son omelette, lui ? Et bah, hop, on dit, on va sur YouTube, on regarde des tutos d'omelette, on achète des bouquins pour savoir comment on fait une omelette, on achète une bonne poêle pour faire une bonne omelette et des œufs au producteur du coin parce que ça fait des meilleurs œufs, donc des meilleures omelettes. Et voilà, on a découvert, on a appris comment faire une bonne omelette. Je pense que c'est ça ce qu'on apprend. Enfin, moi, ce qui me marque de l'apprentissage, c'est d'apprendre à s'adapter, quoi. Et d'apprendre à apprendre. Et de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre.
On parle un peu quand même de votre parcours au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
Mmh.
Et oui, bon souvenir ?
Oui, alors ça, c'était super, ça. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à choisir cette institution pour vos études ?
Parce qu'avant, moi, j'étais dans des études scientifiques, en fait. Et j'étais dans une école d'ingénieur, un peu le profil. Ça marchait plutôt bien à l'école, donc j'allais tout droit, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que, en tout cas, je ne voulais pas devenir ingénieur, à bosser dans une boîte et à calculer des trucs bizarres. Et voilà, et rentrer le vendredi soir, et être en week-end et repartir le lundi matin, c'était pas mon truc. Et de plus en plus, je chantais. Et j'ai eu la chance donc d'être pris dans ce conservatoire à Lyon, où là, j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré plein de gens et je me suis spécialisé dans les musiques anciennes, donc baroque et renaissance. Et là, ça a été tellement le bonheur. C'est vraiment 5 années d'études, mais qui m'ont appris énormément, dans lesquelles je me suis senti comme un poisson dans l'eau.
Mais justement, par rapport à ce genre d'études, à cette période-là, y avait-il un professeur ou une personne qui a particulièrement eu un impact sur vous pendant votre formation ?
Ouais, ma professeure Marie-Claude Valin, qui est une professeure de chant que j'ai beaucoup aimée. Puis il y avait David Chapuis aussi. David Chapuis, c'était un professeur de matière un peu théorique, mais qui parlait, on a fait plein de trucs avec de l'improvisation, de comprendre un peu les... Et puis moi, j'ai besoin de comprendre les choses. Donc, avec lui, on a compris plein de choses. Et puis, mes meilleurs profs, je crois, ça a été tous les copains, en fait. Les expériences avec les collègues, tous les amis que je me suis fait pendant ces années, que je retrouve 15 ans plus tard dans le milieu et qui ont continué de faire de la musique. Et c'est ça, je crois, la meilleure école, c'est celle de faire de la musique et de continuer à étudier et à chercher des choses, quoi.
Comment avez-vous découvert votre passion pour le chant baroque ?
Alors, pour le chant baroque, ça a été en écoutant des disques. Ouais, découverte de disques, de dire, ouais, j'adore ça, c'est beau, et ça, c'est de la période, c'est du 17e siècle, c'est baroque. Ah bon, mais ça veut dire quoi ? Et puis voilà, après, curiosité, me renseigner un peu. Et puis après aussi, la chance de me rendre compte que j'ai une voix qui marche bien pour ce répertoire. Parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on a envie de faire du hard rock, mais on n'a pas la voix pour faire du hard rock ou de poser des gros sons de rap et on n'a pas du tout la voix pour ça. Voilà. Et des fois, il faut juste savoir se dire, ok, bah, ça, je crois que c'est pas forcément pour moi. On a des physiques de coureur de 100 mètres ou de marathon, quoi. Ça, on choisit pas. Et moi, je crois que j'ai une voix qui fait que ça pouvait bien matcher. Donc c'est parti. Allez.
Mais quel défi rencontrez-vous en chantant des œuvres baroques par rapport à des œuvres contemporaines?
Le répertoire contemporain, c'est compliqué parce que ça demande énormément de travail, parce que les mélodies, elles sont pas forcément faciles et parce que les compositeurs, des fois, ils ont des idées un peu farfelues aujourd'hui. Et à l'époque baroque, il faut plus connaître le style, savoir la langue dans laquelle on chante, quel ornement utiliser ici ou là, voilà. L'époque, le chanteur baroque, pour moi, il faut quand même connaître pas mal de choses et essayer de se documenter au maximum sur ce qu'on fait. Alors que la musique contemporaine, là, pour le coup, bah, et c'est ça qui est génial, c'est de travailler avec un compositeur vivant et qui nous dit, ah, bah, tiens, j'ai mis cette note ici parce que je trouve que ça rend bien, et puis là, j'ai mis tel mot-là parce que je trouve que c'est cool. Et c'est une autre difficulté, mais qui est aussi passionnante.
Y a-t-il un moment spécifique où vous avez su que la musique serait votre voix?
Ouais. Ah oui, je me rappelle très bien. J'étais au conservatoire à Lyon. J'étais pas encore étudiant, mais j'ai écouté des gens chanter. Et je me rappelle, c'était du Charpentier. Charpentier, c'est un compositeur français du XVIIe siècle, donc de la période baroque. Et là, c'était une évidence, quoi. Et c'était au moment, voilà, où j'étais encore dans mes études scientifiques, ça me plaisait pas, mais je savais pas trop. Et là, c'est évident. Là, il y a eu un jour où je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ça. J'écoute cette musique, ça me transporte, il faut que je fasse ça dans ma vie. Je me rappelle très bien ce jour-là.
Et quelle a été la réaction de votre famille lorsque vous avez décidé de devenir artiste?
Ouais, c'était un peu... Alors, ils ont été adorables, hein, parce que je pense qu'ils ont eu peur. Mais ils me l'ont pas trop dit. Et ils m'ont suivi, surtout. Ils ont été là. Et aujourd'hui, ils viennent... J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont encore là et qui, dès qu'ils peuvent venir m'écouter, ils viennent m'écouter. Et il y a de la fierté et je leur dois beaucoup, hein, parce que c'est grâce à eux que je suis là aussi. Mais au début, c'était pas gagné, hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas du tout une famille de musiciens. Dans ma famille, de mes cousins, mes parents, mes oncles, mes tantes, tout ça, c'est des gens qui ont des métiers un peu normaux, quoi. Donc, du coup, ça faisait forcément un peu bizarre quand j'ai décidé, moi, de faire le métier de la musique. Donc, sur le coup, c'était un peu une prise de risque, entre guillemets, et puis finalement, tout s'est bien passé.
Avez-vous une anecdote touchante à partager sur vos débuts dans la musique?
Première
scène, alors.
J'étais tout petit, et en fait, j'ai commencé la flûte traversière, parce que j'étais vraiment tout petit, et puis cet instrument, j'avais trouvé ça super beau et tout, sauf que j'étais trop petit pour jouer à la flûte traversière. Je sais pas si vous voyez, je traverse ça, ça fait 50-40 cm de long, mais mes bras étaient trop petits, j'étais vraiment trop minot, quoi, pour pouvoir, donc j'avais une petite flûte, donc j'ai appris sur une petite flûte, c'était marrant, et ça j'étais vraiment tout gamin, et je crois que déjà j'aimais bien ça, après l'instrument j'en fais plus du tout, je fais autre chose maintenant, mais c'était marrant, c'était trop petit pour jouer l'instrument, donc j'ai dû avoir un petit instrument à la place.
Votre talent a été reconnu dans de nombreux concours internationaux, hein. Quels sont ceux qui ont marqué votre carrière?
Je pense qu'il y a Froville. Alors Froville, c'est vers Nancy, par là-bas. Et il y a un concours que j'ai gagné. Je m'y attendais pas du tout. Et je me rappelle très bien le jour. Il y a le jury qui est là. On est les finalistes. Et puis je me souviens que le président du jury me dit, bah vous monsieur, vous avez le premier prix. Et j'ai regardé derrière moi. Mais je croyais que j'étais tellement pas prêt à ce que ce soit moi. Donc voilà, là c'était ce concours-là qui a fait un peu pas mal de tourner les choses dans ma tête aussi, de me dire ah oui en fait finalement je crois que j'ai quelque chose à raconter dans ce métier et qu'il y a des choses que je sais faire, donc je vais essayer d'aller là-dedans, quoi.
Votre carrière professionnelle est riche, hein, on peut le dire quand même, hein. Quelles sont les qualités essentielles pour réussir dans ce métier selon vous?
Alors il y a beaucoup de travail, hein. Des fois, et le métier qu'on fait consiste à faire croire que c'est facile. C'est-à-dire, on se retrouve devant des gens et les gens, il faut qu'ils aient l'impression que c'est facile. Et ça qui est le plus difficile. Et ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de remise en cause aussi, parce que c'est un métier où on se donne complètement, on est sur scène. Et puis nous, on n'a pas d'instrument, on est vraiment là, il y a une autre voix, quoi. Donc quand quelqu'un dit « Ah, j'ai trouvé que telle chanteuse ou tel chanteur, c'était pas bien », en fait, c'est nous qu'on vise directement. C'est pas juste notre petite voix, c'est notre être à part entière. Donc arriver à dire « Ah non, mollo, prendre un peu de distance, ça va, c'est pas grave ». Donc arriver à toujours se remettre en question, c'est pas toujours facile. Puis avancer, et puis en tant que chanteur, voilà, on a un petit rhume, un petit bobo, un truc, des fois on peut plus chanter, donc c'est pas toujours facile. Mais en même temps, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est qu'il n'y a jamais un jour pareil que l'autre, et ça va finir toute la vie, ça va être comme ça et on s'adapte constamment.
Vous êtes également professeur de chant ?
Oui.
Oui.
J'adore l'enseignement. Transmettre d'une manière générale, alors que transmettre à des gens qui ne connaissent pas du tout, à travers expliquer, voilà, vous allez écouter de la musique et c'est ça, 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 ça. Et puis après, transmettre à des gens qui veulent faire de la musique, vraiment. Donc, donner des cours de chant.
Mais quelles valeurs souhaitez-vous transmettre, justement ?
Bah, je pense que, voilà, prendre du plaisir. Beaucoup prendre de plaisir, parce que c'est ça qui nous... C'est ça, le moteur. Et puis, si on veut faire... Moi, j'enseigne beaucoup les musiques anciennes. Voilà, c'est de dire... il faut être curieux, il faut continuer à chercher. Faut pas faire par imitation. Pas faire par imitation parce que j'ai entendu un truc qui m'a plu. Ouais, si, c'est bien. On commence comme ça. Mais après, essayer de se trouver. Et puis, voilà, garder son identité, quoi. Quand on s'appelle Romain ou Hector ou qui on veut, on n'est pas l'autre. On est juste soi. Donc, arriver à s'exprimer soi et être soi.
Comment conciliez-vous votre vie personnelle et votre carrière ?
C'est pas facile, il faut faire des choix.
C'est-à-dire ?
J'ai une compagne et un bébé d'un an. Donc c'est des vrais choix. C'est des vrais choix de se dire, je pourrais, parce que j'ai passé 10 ans de ma vie, moi, être constamment parti tout le temps dans les avions, les trains, les hôtels, au bout du monde. Et puis au bout d'un moment, ça fatigue. Et aussi, au bout d'un moment, on ne sait plus trop pourquoi on le fait. Donc, arriver à se dire, OK, maintenant, il y a la carrière, la musique, c'est primordial, c'est ma passion. Mais il y a aussi des choses aussi importantes, voire plus importantes. Et la famille, se ressourcer, son enfant, sa compagne, sa famille, c'est vraiment important. Donc voilà, arriver à faire la part des choses et se dire qu'il n'y a pas que la musique qui le concerne dans la vie, mais il y a autre chose.
On peut connaître le nom de votre femme et de votre enfant ?
Bien sûr, Clara. Ma chérie s'appelle Clara et mon bébé s'appelle Aldo.
C'est très joli.
Ouais, c'est très joli. Et il est très beau.
Quels sont les défis que vous lancez pour l'avenir de votre carrière ?
Je suis de plus en plus impliqué à Marseille dans plein de choses, dans des ensembles, dans des festivals. Donc ça, j'espère que ça va prendre forme. Continuer à pouvoir enseigner au maximum, parce que ça me plaît beaucoup, et continuer à partager la musique tant que ce sera possible.
Quel est votre plus grand rêve en tant qu'artiste ?
Le plus grand rêve en tant qu'artiste. Continuer à faire ce que je fais, parce qu'en fait, je vis déjà dans un rêve, je crois. Si on m'avait dit il y a 20 ans, non, tu seras plus, tu auras abandonné les sciences, tu feras de la musique, ça, c'était fou déjà. Donc, continuer à pouvoir faire ce que je fais, faire en sorte que les conditions, qu'il n'y ait pas trop de guerre et des choses comme ça, parce qu'en ce moment, c'est une période compliquée. Et donc voilà, c'est que les choses s'arrangent et qu'il y ait de l'argent pour faire des choses, des projets, de la culture, de la musique, la partager avec le plus grand nombre de personnes. Et voilà.
Quelle est votre grande fierté aujourd'hui ?
Quelle est ma plus grande fierté ? Certains projets musicaux, j'en suis vraiment fier. Ma famille, j'en suis très fier aussi. Et être arrivé là où je suis. Ouais.
À la fin d'un livre que vous auriez écrit qui serait considéré comme un chef-d'œuvre, quel serait le mot de la fin ?
Continuez à rêver, à croire dans vos rêves parce que avec beaucoup de travail, et ça n'a pas marché.
Merci beaucoup Romain Beauclair d'avoir été parmi nous ce soir. Merci vraiment. Alors, votre parcours impressionnant, votre passion pour la musique baroque et contemporaine associée à votre engagement dans l'enseignement témoigne d'un artiste à la fois dévoué et talentueux. Nous vous souhaitons plein de bonheur et de succès dans vos projets futurs, que ce soit sur scène ou dans votre rôle de professeur, que vos performances continuent d'enchanter le public et de faire vibrer les cœurs. Merci encore Romain Beauclair.
Merci.
C'était L'Œil de Sable pour Fréquence Mistral. Merci à toute l'équipe de Fréquence Mistral. Et n'oubliez pas les amis, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de bon cœur, vous ne valez rien. Et n'oubliez pas que la musique classique est un langage universel, capable de toucher les cœurs, peu importe d'où nous venons. Laissez-vous emporter par le titre Magnificat Primo avec Romain Beauclair. Fermez les yeux et laissez les sons vous guider. Bonne soirée à tous. Magnificat.